Deux présentations qui vont se succéder, mais on pourra faire une petite interruption pour des questions spécifiques après la première. Le hasard fait que les deux présentateurs se prénomment Alexandre, donc, et qu'ils travaillent dans le même laboratoire. Donc, les deux viennent de Londres. Ils travaillent au London Center for Nanotechnology, et ça dépend de University College à Londres. Donc, leur laboratoire indique bien qu'ils sont dans le secteur que nous couvrons, dans le domaine que nous couvrons aujourd'hui. J'aimerais quand même faire un tout petit commentaire pour vous dire que le premier d'entre eux, qui est Alexandre Wahl, est physicien de formation et le second est biologiste. Et ça illustre pour moi une des propriétés essentielles de ce secteur, un peu à l'image de ce que disait Louis Laurent, où on a vraiment beaucoup de domaines qui interagissent. Ici, c'est la notion d'interdisciplinarité que l'on proclame et que l'on veut soutenir haut et fort en France, mais qu'on a beaucoup de mal à soutenir, tellement les chapelles sont difficiles et souvent les physiciens sont d'un côté, les biologistes de l'autre. Je me souviens, et ça c'est en liaison avec ce qu'a raconté Octave, qu'il y a quelques années, avec Jean-Claude Desoyer, on s'est battu ensemble pour avoir un appareillage, un microscope à champ de force atomique. Lui avait le microscope et nous cherchions des applications en biologie et ça a surpris tout le monde qu'on aille ensemble faire des démarches dans ce sens-là. Eh bien, vous travaillez vraiment dans le même laboratoire, dans un environnement pluridisciplinaire et je salue cette démarche-là. Donc, les deux vont avoir trait à l'illustration de ce qu'on appelle des laboratoires en miniature. Et la première présentation va vous parler de pinces optiques. Donc, une application qui peut paraître étrange a priori. Et puis, dans la deuxième partie, on vous parlera de microfluidique et d'application en biologie. Ce sont des termes qu'a évoqué Louis Laurent aussi tout à l'heure. Donc, Alexandre Wahl en premier, Alexandre Benedetto ensuite. Je vous laisse la parole.
Merci Yves. Comme vient de vous l'être expliqué, je suis physicien, j'ai toujours été physicien et je demeure physicien à une nuance près. C'est que j'ai commencé mes études dans un cadre physique très classique. Tout ce qui est classique, la mécanique newtonienne, la mécanique quantique, etc. J'ai même fait ma thèse en physique des semi-conducteurs, c'est-à-dire l'étude à basse température des transistors à petite échelle. Et ce dont traitait ma thèse, c'était le comportement des électrons dans des systèmes microscopiques. Bon, et après ma thèse, j'ai décidé de changer un peu de cap. Et j'ai été inspiré par un autre domaine complètement différent, celui qui touche à la biologie. Alors, je veux bien préciser à ce moment-ci qu'il s'agit de la biologie jumelée à la physique. C'est-à-dire qu'on utilise les outils, les éléments, les concepts de la physique pour aborder des problématiques dans les sciences du vivant. L'institut où je travaille s'appelle le London Center for Nanotechnology. C'est-à-dire que c'est un centre, un institut qui est dédié à l'étude des nanosciences. Et nous faisons partie d'une collaboration entre plusieurs universités de Londres. Alors, le mot nanotechnologie, je pourrais dire que dans tout mon parcours, le mot nanotechnologie, nanoscience, a été un thème récurrent. C'est-à-dire que j'en ai toujours entendu parler. Mais la première fois, c'était à propos de circuits électroniques où on observait des électrons uniques. On arrive à faire des échantillons petits où les propriétés des électrons uniques sont mises en évidence. Après, il s'agissait de circuits avec des molécules. On faisait propager des courants électriques dans des nanotubes de carbone ou même dans des molécules d'ADN. Et ça m'a rendu perplexe pendant très longtemps. Je me suis dit, mais nanotechnologie, nanoscience, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça m'a réconforté d'entendre l'intervenant de ce matin exprimer un peu cette idée. En fait, c'est comme un grand fourre-tout, on trouve de tout. Et le danger, c'est qu'à force de vouloir trop rassembler, on finit par se demander de quoi traite-t-on finalement. Donc, si on me demandait de résumer à mes yeux en quoi concernent les nanosciences, c'est la science du petit, mais la science du petit au niveau des composantes fondamentales, des particules uniques. que ce soit des électrons, des atomes, des molécules. Et à mes yeux, c'est ça le thème unificateur de toutes les nanosciences. Et de ce fait, comme vient de l'expliquer Yves, ça implique forcément une multidisciplinarité. On ne peut pas étudier des systèmes biologiques à cette échelle-là sans évoquer des phénomènes chimiques, mais aussi physiques. Donc il faut... Il y a un thème aussi. Alors, juste avant de commencer, je voudrais porter deux petits commentaires qui me semblent être très importants. Je les ai lus ce matin sur la petite fiche d'annonce de cette journée. Alors, je vais me permettre de faire quelques corrections, mais ce sont des corrections qui, à mon avis, sont très, très importantes. Je vais vous lire les extraits. La première ligne dit « Les nouvelles technologies résultent rarement d'une création ex nihilo. » C'est oui. Je me ferai tabasser à la sortie. « Les nouvelles technologies résultent rarement d'une création ex nihilo, voire de sauts technologiques importants, mais suivent plutôt les progrès des connaissances scientifiques. » Je me permets de porter une nuance là-dessus, qui est très à propos avec ce que je vais dire, c'est que, en fait, la technologie et les sciences avancent main dans la main en même temps. Donc, les progrès scientifiques, les sujets de recherche que nous pouvons faire dans les nanosciences ne sont possibles que grâce aux progrès technologiques. Donc, c'est grâce aux progrès technologiques qu'on arrive à étudier de nouveaux systèmes. Donc l'échange va dans les deux sens. Et le deuxième point qui est à mon niveau aussi très important, c'est au milieu de la colonne. On parle d'une l'exploration de l'infiniment petit. Alors, c'est toujours une expression qui me fait mériter, parce qu'il ne s'agit pas de l'infiniment petit. C'est ça tout l'essence de la nanoscience, c'est que c'est du finiment petit. On ne parle pas de l'infiniment petit, on parle de grandeurs qui sont certes très petites, mais elles sont mesurables. Donc, c'est très important. Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est les nanosciences appliquées à la biologie, les systèmes biologiques. Alors, je vais me permettre quelques généralités qui, à mon avis, définissent un peu le cadre de cette recherche. Les nanosciences appliquées à la biologie, c'est quoi ? À mes yeux, c'est le fait de mesurer, mais aussi de manipuler, de contrôler des phénomènes biologiques au niveau atomique et moléculaire. C'est recréer, c'est simuler de manière artificielle des phénomènes biologiques qui sont de nature complexe dans l'état naturel, dans les cellules, dans les organismes. Et au niveau expérimental, on essaie d'épurer, de simplifier ces systèmes pour n'en garder que les composants essentiels. Et le but de la recherche, c'est de mettre en évidence, sous le microscope, dans l'éprouvette, les aspects mécaniques. Et je souligne bien mécanique, il ne s'agit pas seulement des propriétés chimiques, on considère les molécules comme des entités machines, des mécaniques, de les mettre en évidence. Alors, pourquoi un physicien vient-il à s'intéresser à la biologie ? La réponse pour moi, c'est bien simple, c'est que la nature nous fournit déjà de systèmes d'ingénierie, mais d'une précision qui est vraiment incroyable. Vous voici un robot tel qu'on l'imagine aux dimensions humaines. Je vous invite à regarder ici un film. Il s'agit ici d'une molécule de kinésine. La kinésine, c'est une molécule motrice qui existe dans toutes nos cellules. Elle avance sur des autoroutes de la cellule, des filaments de microtubules. Elle conduit de part et d'autre de la cellule des cargos, des composants, des nutriments et tout ça, tout ce qui permet la cellule de vivre. Alors, voici un exemple d'une nanomachine. Et elles sont très dignes d'intérêt parce que ce sont des molécules qui existent naturellement, mais d'une grande précision. Elles témoignent d'une grande efficacité, d'énergie. elles sont extrêmement reproductibles. On les trouve dans des exemplaires vraiment incroyables dans la cellule. Et elles sont aussi multifonctionnelles. Donc, une même molécule, avec quelques modifications, peut servir à toutes sortes de processus biologiques, soit le transport de matériaux, la contraction des cellules, le mouvement des cellules, tout ça sur une base vraiment universelle. Alors, l'exemple dont je veux vous parler plus particulièrement aujourd'hui, c'est la molécule qui s'appelle la myosine. Alors, la myosine, c'est une protéine qui est très très courante. C'est la molécule qui permet de générer les tensions et les forces dans nos muscles. Donc, je vous montre ici un schéma de la structure d'un muscle. Au niveau le plus petit, une fibre musculaire comporte deux sortes de molécules. Une qui s'appelle l'actine, que je vous montre ici en rouge, c'est une molécule passive, et la myosine, qui est une molécule active, donc elle c'est un petit moteur. Et quand on y regarde de plus près, on voit que la myosine effectue son rôle de moteur à l'aide d'un carburant universel qui s'appelle l'ATP. L'hydrolyse de l'ATP génère une énergie libre qui permet à la molécule de produire son travail. Donc elle s'accroche au filament d'actine, elle subit une transformation de configuration. Elle consiste à cette partie-ci, ça peut l'appeler le levier ou la baguette. Alors la baguette s'accroche à l'actine, et puis grâce à une transformation de configuration, elle balance et, ce faisant, génère une force. Alors, tout à l'heure, on parlait d'échelle de grandeur. Je veux revenir sur ce thème-là. L'échelle de grandeur est d'abord une échelle de longueur. On parle de l'échelle des molécules elles-mêmes, donc des molécules qui sont de la taille de quelques nanomètres. L'échelle d'énergie dont il est question, c'est lié bien entendu à l'énergie libre de la molécule d'ATP dont je vous parlais il y a un instant. C'est la molécule carburant, et nombre de processus moléculaires et cellulaires fonctionne grâce à l'ATP. Une molécule d'ATP sert à effectuer une action. Alors c'est une démarche bien connue en physique. On est en train de parler de la mécanique de ces molécules, des molécules qui exercent une force sur d'autres molécules. De quel ordre de grandeur parle-t-on du point de vue des forces? On divise l'échelle de grandeur des énergies par l'échelle de grandeur des longueurs, et on arrive à l'échelle de grandeur des forces. Ainsi, pour une échelle de longueur de quelques nanomètres, les forces qui nous intéressent sont de l'ordre de piconewton. De l'ordre de 10 exposant moins 12 newtons. Et toute l'astuce, tout le défi qui nous est présenté, c'est comment expérimentalement on arrive à créer des outils qui nous permettent d'appréhender ces échelles. Donc j'en viens à la technique que j'ai utilisée dans le passé pour étudier la myosine. Donc, il s'agit des pinces optiques. Alors les pinces optiques, c'est quoi ? Les pinces optiques, c'est un outil expérimental qui a été inventé il y a une bonne vingtaine d'années et qui sert à beaucoup de sortes d'applications. C'est un outil expérimental qui exploite un phénomène très, très connu en physique. C'est le fait que la lumière a des propriétés mécaniques. Alors si... Ceux d'entre vous qui êtes physiciens, vous saurez que un faisceau laser, ce n'est rien de plus qu'un flux de lumière, ce n'est que de la lumière. Mais c'est quoi la lumière? parchemin de lumière, c'est un flux de photons. Ce sont des particules sans masse, des particules sans masse, mais qui portent néanmoins une quantité de mouvement. Et la physique quantique nous apprend que la quantité de mouvement associée à un seul photon s'écrit de cette manière, c'est P égale H sur lambda, H étant la constante de Planck, et lambda étant la longueur d'onde du laser. Imaginez maintenant qu'on mette dans le faisceau laser une paroi réfléchissante, comme ça, qui déflecte le faisceau laser. Alors bien sûr, intuitivement, on ne s'y attend pas nécessairement, mais bien entendu, du fait que nous changeons la direction de la quantité du mouvement des photons, on génère une pression tout à fait mécanique. C'est exactement le même genre de pression que nous connaissons à notre échelle macroscopique. C'est une force qui se mesure en newton. La paroi va subir une pression dans ce sens-là. Et alors de quel ordre de grandeur parle-t-on ? Si on prend un laser standard, 100 milliwatts, pour une longueur d'onde d'un micron, disons, cela correspond à 5 fois 10 exposant 17 photons incidents sur la paroi par seconde, ce qui correspond, si on fait un calcul, à une force de 3 piconewton. Et toute l'astuce consiste à dire que, en fait, ces 3 piconewton sont une force comparable aux forces qui nous intéressent au niveau cellulaire, au niveau moléculaire de la myosine. Alors, je prenais cet exemple-là pour vous illustrer le concept, mais utiliser cette méthodologie-là pour, d'un point de vue expérimental, demande plus d'astuces. C'est loin d'être facile de manipuler des molécules, c'est extrêmement petit. Donc, ce qu'on fait, c'est on utilise les pinces optiques, non pas pour tenir des molécules, mais pour tenir quelque chose d'un peu plus gros, une bille en plastique, sur laquelle, après, on attache les molécules d'intérêt. Et on se sert de ces billes-là comme un support pour contrôler notre système. Donc ici, tout à l'heure, je montrais un exemple qui m'est lié à la réflexion de la lumière. Ici, il s'agit de la réfraction, c'est-à-dire que le faisceau laser traverse la bille qui est transparente. Oui. Mais si imaginez qu'on déplace la bille un peu sur le côté, par le phénomène de réfraction, le faisceau sera dévié dans ce sens. Une analyse vectorielle très, très élémentaire montrera que la quantité, cela correspond à un changement de la quantité du mouvement des photons, donc de cette direction-là à celle-là. Et quand il y a un changement de quantité de mouvement, cela implique une force. Donc la bille subira une force dans ce sens-là. Et voici donc l'essence, le principe donc des pinces optiques. Les pinces optiques, d'un point de vue pratique, sont réalisées dans un microscope, dont voici l'objectif. Nous projetons un faisceau laser dans l'objectif. Le faisceau laser est focalisé et la distribution du faisceau fait en sorte que la bille subit toujours une force qui la ramène au centre, au point focal du laser. Donc la bille est capturée. Et on peut, d'un point de vue analytique, on peut représenter ce phénomène-là comme en évoquant l'idée de petits ressorts qui tiennent la bille et qui la dirigent toujours vers le centre, vers le point focal de l'objectif. Alors l'expérience dont je parle utilise non seulement une, mais deux pinces optiques. C'est-à-dire que nous prenons dans notre dans notre dans notre microscope, nous y apportons deux faisceaux laser différents, chacun pouvant se focaliser, et chacun donnant une pince optique. Et dans chaque pince, nous capturons donc une bille en plastique. Et entre les deux billes, qui sont couvertes d'une substance adhésive pour protéines, on arrive à capturer un filament de la molécule d'actine dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le filament qu'on trouve dans les muscles. Donc on arrive à en isoler un seul et puis à l'étirer pour faire une sorte d'halter. Alors, dans notre microscope, nous avons une lamelle de verre sur laquelle se trouvent des billes comme ça, qui sont plus grosses. Elles sont fixées sur la lamelle et elles servent de pédestal à des molécules de myosine individuelles. Donc, tout le système est parsemé de molécules individuelles de myosine l'expérience ne peut marcher que si nous avons une concentration assez faible de myosine pour que dans l'éventualité où on observe une interaction entre les protéines, on peut être quasiment certain qu'il n'y a qu'une seule molécule interagissant avec le filament et non deux. Alors, vous serez peut-être curieux de savoir à quoi ça ressemble. Je vous montre des schémas, mais sous le microscope, on peut voir ça en réel. L'image de gauche vous montre ce qu'on voit dans le microscope. C'est une image vidéo. J'ai appelé la pêche aux billes, parce que c'est ça dont il s'agit. Nous avons une suspension de toutes les composantes de notre système, et les billes flottent un peu partout, et le premier exercice consiste à les attraper dans chacune des pinces qui sont indiquées ici par les petites croix. Alors, une fois qu'on a capturé les billes, hein, on va à la pêche au filament, la pêche à l'actine, qui est bien sûr invisible optiquement, donc elle est taguée par une molécule fluorescente qui permet d'être vue. Donc ce que vous voyez là, c'est un filament unique, un seul filament de cette actine là qui est collé entre les billes. Donc une fois cela étant fait, nous procédons à l'expérience en elle-même. Donc, comme je vous l'expliquais, nous présentons le filament d'actine, nous l'abaissons pour qu'il puisse interagir avec une molécule unique de myosine. Et c'est toujours ça le grand défi de la nanoscience, c'est comment arrive-t-on à visualiser à ces échelles-là les phénomènes. C'est extrêmement petit. On arrive néanmoins à mesurer le positionnement, la position des billes qui elles sont plus grandes que les molécules. Nous avons ici deux détecteurs de position qui nous fournissent un signal qui peut être montré à l'oscilloscope. Alors, ce qu'on voit dans le signal de l'oscilloscope là-bas, c'est on voit du bruit, et c'est à peine surprenant parce qu'aux échelles dont on parle, il y a un phénomène fondamental, c'est le mouvement brownien. Les billes sont suspendues dans un liquide, et en raison du bombardement continu de molécules d'eau de toutes sortes, les molécules gigotent, elles bougent, elles vibrent. Donc c'est le bruit qu'on voit, c'est le bruit qu'on voit là. Et ce que vous constaterez aussi, c'est que à des moments intermittents, le bruit est subitement réduit, et cela est dû au fait que nous voyons en direct l'interaction entre la myosine et le filament, parce que la myosine, cette molécule-ci, donc qui est attachée à son support, est bien plus raide que les que les pinces qui tiennent le qui tiennent les billes. Donc c'est un peu comme une ancre. Elle s'accroche au filament. Et donc le filament arrête de gigoter le temps de l'interaction. Et puis, comme vous l'avez vu dans le film de tout à l'heure, la myosine effectue son mouvement. Après, elle lâche le filament d'actine pour pouvoir recommencer le cycle. C'est le processus que nous subissons des milliards de fois par milliseconde à chaque moment actuellement. Ouais. Donc vous voyez ici en direct un comportement moléculaire. Ce que je trouve assez épatant. Enfin. Alors, on peut faire beaucoup de sortes d'analyses, on peut faire des expériences, on peut mesurer l'effet de force exercé par les pinces sur la myosine. On peut faire des études d'énergétique, de thermodynamique, de tout ce qu'on veut. Ici, je ne veux en retenir que la plus simple qui nous instruit sur la myosine. Si vous voyez sur cette vidéo, vous voyez qu'il y a donc deux états, un état à bruit élevé, un état à bruit faible, qui correspond à l'attachement ou au détachement du filament. On peut identifier séparer ces deux états et trouver pour chacun d'eux la position moyenne. Alors, quelle est la position moyenne du filament quand il est détaché de la myosine et quelle est sa position moyenne quand il est attaché à la myosine? Et donc, on peut mesurer ça de façon très précise. Et ce graphique-ci vous montre donc un histogramme et une courbe. La courbe de gauche ici vous montre la distribution probabilistique de la position du bruit quand l'actine est détachée. Et l'histogramme ici vous montre la position moyenne quand il est attaché. Et vous constaterez qu'il y a un décalage, petit, mais bien là, entre les deux distributions. Et à votre avis, qu'est-ce que ça représente? Ben, on arrive à voir la distance de déplacement de la molécule qui a effectué son changement de configuration. Alors voici un petit résultat dont que je voulais vous parler. Je ne vais pas prendre davantage de temps, mais ceci sert à vous montrer un avant-goût du genre de choses qu'on peut faire dans ces systèmes. Je vous remercie.
Merci pour cette belle démonstration, très, très simple en tout cas à expliquer, sans doute compliqué à monter peut-être au départ. Et, par contre, ce qui serait intéressant, je vais vous passer la parole, c'est est-ce que tu pourrais en quelques mots nous dire, est-ce qu'aujourd'hui on a d'autres champs, quels sont les grands champs d'expérimentation avec des pinces optiques? Est-ce qu'on peut résumer ça rapidement ou pas?
On utilise les pinces optiques pour un grand nombre d'applications, et pas seulement du point de vue biologique. Donc on l'utilise pour mesurer des effets de fluidique au niveau moléculaire, donc les effets de viscosité qui sont propres à des échelles de grandeur très petites. Au niveau les molécules motrices telles que la myosine ou la kinésine, demeure un champ de recherche très, très actif. Je dirais les grandes questions qui restent, qui sont encore sans réponse vraiment claire, c'est on veut élucider les propriétés énergétiques. On veut établir une correspondance, on veut comprendre comment, au niveau moléculaire, on en arrive à des phénomènes macroscopique, donc l'action d'un muscle qui produit une force de l'ordre de grandeur de 1 newton, Comment y arrive-t-il? Comment y arrive-t-il sur la base de ces mécanismes-là qui ne génèrent que des pics Newton? Donc il y a un écart énorme entre notre compréhension du système à l'échelle des organismes et au niveau moléculaire. Et ça, c'est un domaine qui est en plein foisonnement.
Merci.
Nous avons fait un film sur le note ADN avec un professeur de l'Université de Lausanne qui s'appelle Giovanni Dittler, qui a eu l'idée de simuler le note ADN avec des spaghettis noués. Il a eu un succès médiatique terrible. Et bon, d'ailleurs, on a mis la contribution d'un magicien de Poitiers parce que pour expliquer le nœud, c'était très bien. Et dans ce film, on a mis justement une image de nœud d'ADN testé avec des pinces optiques, une image faite par des Japonais qui testaient la résistance d'un nœud d'ADN en déplaçant les pinces optiques. Est-ce que vous connaissez cette image sans doute ?
Alors je n'ai pas connaissance exactement de ça, mais je sais que par exemple. Je n'ai pas le temps de le présenter, mais voici une autre expérience qui est effectuée par un groupe à Barcelone, celui-là, je crois. Ce qu'ils font, effectivement, ils détricotent une molécule d'ADN. La molécule d'ADN, c'est deux molécules qui sont jointes. Et dans cette expérience-ci, ils utilisent une pince optique. Ils utilisent encore deux billes, ici une qui est sapée par une micropipette avec une pression. Elle est aspirée dans ce sens-ci. Et puis une deuxième bille, elle, est tenue dans une pince optique. Et en séparant les billes, on arrive à mesurer les forces nécessaires pour faire se dissocier ces molécules d'ADN. Alors on pourrait se demander à quoi ça sert tout ça, mais c'est vachement important en fait, parce que ce sont des processus qui existent en réel dans les cellules. La transcription de l'ADN se fait par des protéines qui s'intercalent entre les chaînes, qui doivent donc générer une force. Le seul moyen qu'on a de vraiment comprendre comment ces molécules fonctionnent, c'est en trouvant les moyens de reproduire ces effets-là de manière artificielle.
Oui, j'ai juste une précision. J'ai peur de ne pas avoir bien compris. Là, vous avez montré des très beaux résultats sur lesquels vous avez une information sur le déplacement.
Oui.
Est-ce que vous avez aussi possibilité de mesurer la force ou elle est calculée avec la constante de Rader équivalente ?
Exact, oui. J'avais pas trop le temps d'entrer là-dedans, mais par exemple, voici une autre facette de l'expérience que nous avions faite. Ici, nous avions... Donc cette expérience-ci était un peu plus compliquée. Ici, on prenait nos deux pinces optiques, et on les faisait bouger par rapport à la myosine qui est ici ancrée sur son support. Et d'un point de vue de modélisation, d'analyse, on peut conceptualiser le système comme étant composé de ressorts linéaires, donc chacun ayant une raideur, une constante de raideur. Oui. En faisant avancer les pinces, on impose un étirement de la myosine qui peut se mesurer parce qu'en connaissant le déplacement des billes par rapport au centre focal, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut calculer et mesurer la raideur des pinces, donc on peut traduire un décalage entre la bille et le centre, il calcule la force qui est exercée. Donc oui, en effet, on peut faire ces mesures.
J'aurais une question par rapport, un peu plus technique, par rapport à la pince. Savoir quel type de laser, quelle longueur d'onde on utilise.
Oui.
Et pour savoir un peu le diamètre que doit avoir le faisceau laser, comment on arrive à la fabriquer.
Oui.
Et au sujet des billes, savoir Quelle est leur particularité pour que la molécule qui se balade, le filament, vienne se fixer à cette bille? Et quelles sont ses particularités, ses propriétés?
Je répondrai que, comme dans tous les domaines de la vie, c'est le compromis qui le remporte. Nous voulons des systèmes assez petits pour pouvoir, parce que nous, ce sont des systèmes petits en l'occurrence, mais il faut aussi une certaine facilité de manipulation. Donc, d'abord, le laser qu'on utilise est un laser infrarouge, 1064 nanomètres de longueur d'onde. Donc, c'est grand par rapport au nanomètre, mais ça, du point de vue de la création de l'outil, ça fonctionne. Les billes, elles, sont aussi de la taille d'un micron. Nous arrivons néanmoins à visualiser, à mesurer des déplacements qui sont bien inférieurs à ces longueurs-là parce que nous mesurons des effets statistiques. Donc même un gros objet, même qui a un micron de diamètre, en mesurant sa position sur une durée assez longue, on arrive à mesurer une moyenne qui, elle, est précise à une échelle bien, bien plus petite que l'objet lui-même. Oui. Alors, la nature, ce sont des billes toutes bêtes. Ce sont des billes en plastique, en latex. Elles sont recouvertes de biotine. C'est une molécule qui permet d'adhérer. Enfin, c'est une molécule qui est... protéines qui est utilisée partout en biologie pour coller une chose à une autre. Donc elles sont la nécessité fondamentale pour que puisse fonctionner une pince optique, c'est que l'indice de réfraction de la bille soit plus élevé que celui du milieu ambiant. C'est pour que la réfraction puisse être dans le bon sens, si vous voulez. Donc c'est ça, y a pas, c'est pas plus sorcier que ça, en fait.
Bon, je vais devoir interrompre pour passer à la présentation suivante. On reviendra éventuellement à des questions, puis on vous en parlera en aparté tout à l'heure. Donc, je vais passer la parole à Alexandre Benedetto, qui, comme je le disais, est biologiste, donc a passé un doctorat en France à Strasbourg, puis après est parti aux États-Unis avant de se retrouver à Londres récemment. Donc vous voyez, on peut être jeune et avoir déjà beaucoup bougé. J'ai oublié de préciser qu'Alexandre Lowal est belge, mais vivant en Angleterre. Donc vous voyez, on est dans un monde non seulement pluridisciplinaire, mais très international. Et ça, c'est un des avantages fantastiques de la science. Est-ce que tu es prêt, Alexandre?
Oui.
Tiens, tu as un pointeur.
Donc bonjour à tous, merci aux organisateurs pour leur invitation et à vous pour être là. Donc, pour ma présentation, il y a deux grosses différences avec celle d'Alexandre. C'est que je ne suis pas spécialiste de ce que je vais présenter. J'interviens en tant qu'utilisateur des nanotechnologies. Donc utilisateur récent, mais en fait j'ai mis au point un système moi-même pour mon futur en recherche biologique. Donc mes connaissances fondamentales de physique sont bien plus rudimentaires que celles d'Alex, et en plus ce qu'il a présenté, c'est quand même le résultat d'une expertise de plusieurs années, et moi je suis quand même assez nouveau dans le domaine dont je vais vous parler. D'autre part, les pinces optiques ont effectivement des utilisations très pointues en biologie, et de façon curieuse, la microfluidique dont je vais vous parler, c'est encore assez anecdotique ce qu'on fait avec en biologie, alors qu'on est à des échelles déjà beaucoup plus grandes. Donc, je vais commencer ma présentation par essayer de définir un petit peu ce qu'est la microfluidique rapidement, donner un principe essentiel de ce qui se passe à cette échelle, au niveau des fluides, présenter les intérêts mais aussi des inconvénients en sciences biomédicales et biologiques, vous donner un aperçu des techniques impliquées et des champs d'application en biologie. Et puis ensuite, je donnerai quelques exemples d'études qui ont été réalisées récemment. Donc, ça paraîtra moins technologique que ce qu'Alex vous a présenté. Donc, en fait, la microfluidique, c'est une sous-section, entre guillemets, de ce qu'on appelle nanotechnologie, mais en fait, ça concerne, en réalité, des échelles qui sont généralement du micron à quelques centaines de microns. Alors, il y a des gens qui commencent à faire de la nanofluidique, mais la plupart des applications dans le champ de microfluidique se passent à l'échelle micrométrique. Donc, c'est à l'interface entre physique, chimie, sciences de l'ingénieur et biologie. Ça s'intéresse soit au comportement des fluides eux-mêmes, soit ça utilise les fluides à ces échelles pour différentes applications biologiques, chimiques, biotechnologiques. Et donc il y a une chose relativement importante à propos de la microfluidique, c'est que en fait le système est défini par la géométrie qu'on lui applique. Parce que finalement, on travaille dans une situation relativement simple du point de vue de la mécanique des fluides. Donc le système, je vous montre, il est relativement prédictible. Et à partir de là, c'est notre imagination qui va être déterminante pour concevoir des circuits qui vont avoir certaines propriétés intéressantes. Alors, si on regarde les publications en microfluidique, par exemple si on utilise le moteur de recherche Google Scholar, vous voyez, la microfluidique en fait est née dans les années 80. Elle a commencé réellement à apparaître dans les citations dans les années 90. Ça a commencé à décoller vers les années 2000, et là donc c'est en pleine expansion. Mais en fait, ça inclut tout un tas d'applications biotechnologiques qui sont essentiellement industrielles et de systèmes de haut débit. Et en fait, au niveau de la recherche fondamentale en biologie même, c'est relativement limité. Donc, ça serait probablement, je ne sais pas, à l'heure actuelle, de l'ordre de quelques pourcents des études, de toutes ces études. Et ça, en biologie, ça représente 1% peut-être. Donc, c'est vraiment un champ vraiment très limité à l'heure actuelle, mais qui sera en expansion, et c'est pour ça que je m'y intéresse. Donc, le principe physique fondamental aux échelles micro et nanométriques, c'est qu'en fait, parce qu'on a un nombre de Reynolds faible, donc du fait des dimensions des systèmes, donc on a des systèmes de petite taille et on a des flux qui se déplacent à une vitesse, une petite vitesse, puisqu'on est dans des systèmes tout petits, mais en fait la viscosité l'emporte dans le système, et donc on se retrouve dans une configuration où le nombre de Reynolds est inférieur à 1, et ça va avoir un impact très important sur les lois de la dynamique des fluides, et entre autres, la convection, les échanges par convection vont devenir négligeables par rapport à la diffusion. Et comme les dimensions des systèmes sont en général de l'ordre maximum une centaine de nanomètres de hauteur, la gravité devient négligeable. Et donc, en général, il y a des conditions supplémentaires dans nos conditions expérimentales, c'est que la plupart des fluides avec lesquels on travaille sont incompressibles, donc comme l'eau ou l'huile, et on travaille en flux stationnaire. Donc en fait il y a une relation qui peut paraître barbare et compliquée pour les gens qui ne sont pas habitués à la physique, dont moi même, qui est la relation de Navier-Stokes qui régit le comportement des fluides. Et en fait dans cette relation compliquée qui comporte 1, 2, 3, 4, 5 termes principaux, se simplifie énormément dans le contexte microfluidique. Donc on peut supprimer, parce qu'on est en système stationnaire, on peut supprimer les variations de vitesse, on peut supprimer les mouvements de convection et on peut supprimer la gravité. Et donc après on a une relation relativement simple entre la pression et la vitesse, qui sont les paramètres essentiels qu'on peut contrôler et dans notre système. Et donc on se retrouve avec des systèmes qui sont prédictibles, facilement modélisables et qui sont reproductibles. La reproductibilité est très importante quand on fait de l'expérimentation, parce qu'il faut que nos résultats, on puisse les reproduire pour prouver leur valeur. Donc, les intérêts majeurs de ces systèmes, donc, c'est que comme on travaille avec des petits volumes, alors ça va parler à plus de monde probablement. Au niveau, quand ces technologies sont très bien développées, bien maîtrisées et qu'elles deviendront moins chères, parce qu'en fait le coût de ces technologies, il est essentiellement dû, alors d'abord au coût de la recherche pour la mettre en place, et ensuite au coût des structures à acheter pour la produire. Mais une fois que ces structures sont achetées, bah, en fait la production elle-même est très peu coûteuse. Donc ça c'est la partie coût. Donc ça c'est un intérêt important pour tout ce qui est nanotechnologie. Et il y a un autre intérêt au niveau de la société, c'est que le but ultime, c'est qu'avec ces technologies, on générera beaucoup moins de pollution, parce qu'on travaille avec des microlitres, des nanolitres, donc même une substance très toxique, à ces échelles-là, en fait, diluée dans l'environnement, ça a un impact très limité. Et il y a un autre aspect très important d'être dans des petits volumes, c'est que les réactions chimiques apparaissent beaucoup plus rapides, puisqu'en fait on peut varier les paramètres beaucoup plus rapidement, la température ou la pression qui vont s'appliquer sur le volume, les changements vont être pratiquement immédiats. Donc des réactions classiques en biologie moléculaire comme la PCR qui permet toutes les technologies de l'ADN, le séquençage, etc., vont se dérouler. Au lieu d'avoir une PCR de 3 heures, on peut la faire en 20 minutes ou 15 minutes, tout en utilisant beaucoup moins de produits. Donc en gros, tout ça, ça peut revenir vraiment beaucoup moins cher. Parce que les systèmes eux-mêmes, donc pas seulement les volumes, mais en fait les systèmes qu'on utilise sont de petite taille, il y a aussi pas mal d'avantages. Parce qu'ils sont plus, ils sont davantage transportables. Et donc dans le domaine par exemple du diagnostic médical, ça va être essentiel, et ça va être un essor de la microfluidique. En fait, c'est vers le diagnostic de maladies dans les pays en voie de développement, parce qu'on pourra transporter simplement ces systèmes un peu partout. Alors production, le coût de production va décroître très rapidement, et on espère que en fait, la médecine va pouvoir atteindre des gens qui, jusqu'à maintenant, ne peuvent pas en bénéficier. Donc, au niveau expérimental, parce que c'est peu de petite taille, c'est plus facile à intégrer dans un système très compliqué. Alors, je vais vous montrer le système que j'utilise, qui n'est pas extrêmement compliqué, mais qui intègre déjà un système de contrôle de flux, un microscope à fluorescence, le système microfluidique en tant que tel. Bon, un ordinateur, évidemment, pour piloter tout ça. Donc, le fait que ça soit de petite taille, c'est facile à insérer. Et d'autre part, comme c'est de petite taille, ça peut être mis en, plusieurs systèmes peuvent être mis en réseau. Alors, soit dans un système vertical, donc avec chaque module a une fonction différente, et on peut réaliser une plateforme entière d'analyse à très petite échelle. Soit on peut mettre en parallèle tous ces réseaux pour augmenter en fait le débit de données, c'est-à-dire qu'on va avoir des répliques de chacune des conditions expérimentales qui vont être conduites d'un seul coup et très rapidement. Et donc c'est ce qui à l'heure actuelle qui a le plus de succès en biotechnologie, je dirais, hein, dans tous les systèmes de synthèse chimique ou protéique, les systèmes de criblage, de tri. Et donc, c'est tous les omics dont on nous rabâche en sciences biologiques depuis le séquençage du génome humain. Donc, la génomique, la protéomique, maintenant la métabolomique qui est en fait l'analyse des composés qui sont fabriqués par les cellules. Voilà. Donc, les propriétés fluidiques, donc des systèmes microfluidiques, ont d'autres avantages, c'est qu'ils permettent une meilleure sensibilité, une meilleure précision. Donc Alexandre avait parlé de la fascination qu'il y avait à manipuler des tout petits objets, et en fait ces techniques permettent vraiment de descendre un certain nombre d'ordres de grandeur et d'avoir un meilleur contrôle des conditions expérimentales. Là encore on retrouve une meilleure reproductibilité, et bien ça c'est parce que la mécanique des fluides, le comportement des fluides est plus prédictible, et ainsi qu'une plus grande versatilité, puisqu'en fait, il n'y a que la géométrie, comme je vous en ai parlé, qui va restreindre les applications. Et donc tout ça, tous ces systèmes microfluidiques peuvent être éventuellement automatisés. Bon, ça peut vouloir dire qu'à terme, on peut avoir des usines qui fonctionnent sans personne. Je ne sais pas si c'est très bon, mais bon. Alors, les inconvénients, il y en a. Alors, au niveau expérimental, c'est essentiellement, bon, qui dit petit volume, petite taille, veut dire qu'en fait, tout le reste doit suivre. Tous les autres outils qu'on utilise doivent être aussi précis que le système avec lequel on manipule les fluides. Donc ça veut dire des bons capteurs, ça veut dire des bons systèmes de manipulation. Bah, par exemple, en fait, on peut imaginer de combiner la microfluidique avec les pinces optiques. Donc là, on arrive à des niveaux de complexité. Seulement les endroits comme Cambridge, Harvard, le MIT travaillent avec ça actuellement. Et aussi l'influence des paramètres extérieurs, des trucs tout bêtes, la température de la pièce peut avoir une influence très importante, ou alors simplement si vous avez une ventilation trop importante dans votre système, ça peut créer des variations de pression qui vont avoir un impact sur votre système microfluidique. Et bien sûr la précision des gestes, il faut pratiquement être aussi précis qu'un chirurgien parfois. Et au niveau des exigences, il y a aussi des exigences académiques, des compétences suffisamment transdisciplinaires, pluridisciplinaires, pardon, ça c'est un anglicisme. Il faut l'équipement de base pour faire les étapes de microfabrication, parce que ça, je vous montrerai que ça implique un certain nombre de techniques d'ingénierie qui demandent un investissement significatif en termes de salles d'équipement, et donc entre autres les salles blanches dans lesquelles le niveau de poussière est réduit au minimum. Et la mise au point, particulièrement dans un système, dans une étude biologique, peut être très longue parce que tout doit être personnalisé. Donc il faut reprendre tout, faut apprendre toutes les étapes du processus. Donc on a un transfert de technologie vers la biologie, par exemple, qui est encore relativement lent. Alors ce qui est impliqué, en fait, si on fait les choses bien, on commence par un problème scientifique. Et on va commencer à modéliser, on va essayer d'imaginer un système qui va permettre de répondre à notre question, un outil. Et donc ça va impliquer de la modélisation mathématique, une bonne connaissance de la mécanique des fluides, qui sont typiquement des connaissances de physique. À partir de là, on va créer un dessin industriel. Et à partir des dessins industriels, on va pouvoir passer à l'étape de microfabrication. Au niveau de l'étape de microfabrication, éventuellement, on va vouloir faire des modifications sur notre système, lui donner des propriétés chimiques intéressantes, et donc ça va faire intervenir la chimie de surface et la chimie. Et après, il y a d'autres étapes, donc tout ça c'est de l'ingénierie, on a la chimie, on a la physique, et après évidemment il y a la partie microfluidique elle-même, une fois qu'on a notre outil, il faut avoir un système de contrôle des flux, éventuellement des systèmes électromagnétiques qui vont permettre de manipuler les objets biologiques auxquels on s'intéresse, et une plateforme d'imagerie qui va être le système pour interpréter les données et puis les rendre visuellement. Donc voilà, ça c'est pour la multidisciplinarité, c'est assez exigeant. Alors typiquement les champs d'application, donc je vous ai parlé rapidement du diagnostic médical. Actuellement par exemple au LCN, il y a une initiative qui a démarré en collaboration avec une grosse entreprise, qui implique 4 ou 5 équipes, et le but c'est de mettre au point des puces de diagnostic pour le sida, et en fait le but c'est d'arriver à identifier, à mesurer le nombre de virus du sida, pas de manière indirecte, directement le nombre de virus de sida qu'il y a dans une certaine quantité de sang par exemple. Et donc ça permet de suivre la maladie, la progression de la maladie, ça permet aussi de faire du dépistage. Donc c'est le genre de technologies qui sont en route, typiquement l'idée derrière c'est que ça peut toucher les pays, ça peut aller en Afrique parce que ce sera une technologie qui sera suffisamment peu chère et accessible. Donc ça c'est pour illustrer la partie diagnostic médical. On peut faire du criblage de médicaments ou de drogues, on peut imaginer tester les sportifs pour le dopage avec des systèmes microfluidiques, et on a le résultat très rapidement sur tous les types de drogues qu'on veut. On peut faire évidemment du criblage de protéines, l'identification, tester des associations entre récepteurs et ligands. Donc ça c'est un champ très important en pharmacologie. On peut faire de la biologie moléculaire et structurale à haut débit. Donc, je présenterai un exemple avec la cristallisation des protéines. Des études de catalyse enzymatique en fait, dans des micro-gouttes. Des études de croissance de micro-organismes pour produire éventuellement des protéines, des molécules biologiques d'intérêt. Du criblage de cellules, des études de fonction cellulaire. Donc on peut étudier les mouvements cellulaires, la croissance des neurones, les communications entre cellules. Et à des plus grandes échelles, en fait, on peut étudier les propriétés de tissus cellulaires et voir d'embryons pour les plus petits embryons d'invertébrés, donc les œufs de mouches, ce genre de choses. Donc je vais vous présenter quelques exemples, en commençant par le plus naturel peut-être et le plus simple. Donc c'est l'étude du système circulatoire microvasculaire, donc le système sanguin, au niveau des capillaires. Alors un capillaire sanguin, en fait, typiquement les dimensions sont de l'ordre de quelques microns. Pour les plus petits capillaires, en fait, les globules rouges rentrent à peine dedans. Donc c'est vraiment la pression sanguine qui les fait passer. Et donc ces capillaires, ils sont formés par une couche de cellules qu'on appelle cellules endothéliales qui forment en fait le pourtour du capillaire. Et donc le flux sanguin passe à travers. Donc l'étude que je vais vous présenter s'intéressait en fait à l'effet du flux sanguin sur les cellules endothéliales. Donc comme c'est un système au niveau microfluidique très simple puisqu'il n'y a qu'un canal et qu'un seul flux, j'ai utilisé ça pour donner une représentation sous forme de dessin, de schéma du processus de microfabrication. Donc on a un dessin qui est créé avec un canal à section rectangulaire, tout simple, avec une entrée et une sortie. Donc c'est qu'ils seront connectés à des tubes et les tubes à des réservoirs qui vont alimenter en fluide le canal. Alors les étapes, il va y avoir une fabrication d'un moule qui demande d'utiliser une résine relativement dur. Cette partie se fait toujours en chambre blanche. Ensuite, on va polymériser dessus une résine transparente qui va permettre de voir à travers le système quand on est en microscopie. On va détacher les deux. Et là, en fait, on a un canal ouvert, ici, qu'on va ensuite fixer sur une lamelle de verre. Et on va percer l'entrée et la sortie. Et on a un système microfluidique très simple avec un seul canal. Et on va ensuite perfuser des cellules et cultiver dans ce système. Et donc, ce qu'on fait, donc cette équipe, ça devait probablement être un thésard ou un postdoc, Van der Meer, ils ont fait pousser des cellules endothéliales dans un canal. Les cellules ont migré, se sont divisées et ont couvert en fait toute la circonférence, toute la section du canal. Donc ici, on voit une vue 3D. Et ils ont regardé comment les cellules, la tête des cellules, en fait, sans perfusion. Donc vous voyez des structures, en fait ça, ce sont les structures d'actine dont Alex vous a parlé. En fait, ces structures d'actine, elles existent dans toutes les cellules. Donc ça, ce sont des mais dans ces cellules, il y a ce qu'on appelle des fibres de stress. Et en fait, elles sont un peu dans tous les sens. Donc là, vous en avez qui sont dans cette orientation, vous en avez qui sont dans cette orientation, dans celle-là. Enfin bon, c'est assez varié. Et maintenant, si on fait grandir ces cellules en fait avec un fluide qui a une viscosité similaire au sang, et bien en fait, ces cellules vont se réorienter dans l'axe du flux, et toutes les fibres d'actine vont se retrouver plus ou moins parallèles au flux. Donc ça illustre la plasticité en fait des cellules endothéliales. Et ça permet d'expliquer en fait leur capacité à s'adapter aux contraintes mécaniques de la circulation sanguine. Alors un exemple qui est assez rigolo, qui était publié dans Nature, des gens se sont amusés. En fait, ils se posaient la question de l'influence de la température sur des processus de développement. Donc ils ont mis un embryon de mouche dans un canal. Donc cette fois-ci, il y a deux flux parallèles. L'un est chaud et l'autre est froid. Donc ici, c'est froid à gauche et chaud à droite. Ici, c'est chaud à gauche et froid à droite. Et alors, s'ils se sont rendus compte, c'est un impact direct sur la rapidité à laquelle les cellules se divisent. Donc vous voyez dans la moitié de droite ici, qui a le flux chaud, les cellules sont divisées rapidement. Donc on a beaucoup plus de cellules, la densité de cellules est plus grande. Et ici, c'est dans la partie de gauche. Donc ça correspond toujours au flux chaud. Alors maintenant, on peut se dire, bon ben, si ça, ça se passe, ça veut dire que, par exemple, au cours du développement humain, on va dire, bon, il faut que le cœur se développe à la même vitesse que le foie, on va dire, pour qu'ils aient à peu près les tailles voulues à l'arrivée. Donc, qu'est-ce qui se passe si on génère ce genre d'asymétrie dans le développement? Et je pense que c'est ça qui leur a valu la publication dans Nature, c'est que si on regarde au niveau génétique, donc là, ils ont pris un gène impliqué dans le développement, donc ce gène va conférer des propriétés particulières aux cellules qui l'expriment. Donc, les cellules qui l'expriment sont en vert. Et donc, vous voyez que dans le flux chaud, on a un patron d'expression plus défini. Donc, ça ressemble davantage à des bandes ici. Ici, c'est un peu plus diffus et c'est peut-être un petit peu moins concentré, l'expression. Et dans la situation inverse, on observe à peu près l'opposé. Donc ça, c'est après 3 heures dans ce système microfluidique. Et le truc rigolo, c'est qu'après une demi-heure, bien qu'on ait des conditions très différentes, avec deux flux à température différente, les cellules qui ont des taux de division différents, eh bien, on finit dans les deux systèmes avec le même patron d'expression. Et ça, ça illustre très bien une chose qui est que l'évolution a bien fait les choses. Les processus de développement qui sont censés nous développer depuis un œuf jusqu'à un organisme sont suffisamment robustes pour s'adapter à des changements de l'environnement. Assez drastiques, parce que là, en l'occurrence... Donc en fait, ce qui se passe, c'est que... Ah, pardon. C'est que cet embryon, eh ben, il va simplement donner une mouche normale. Ces deux embryons vont donner une mouche normale alors qu'ils sont exposés à des conditions très atypiques. Bon, on peut passer à une échelle inférieure. Donc ça, c'est plus le genre de choses auxquelles je m'intéresse. Donc moi je pars d'un groupe de cellules qui sont identiques et je vais étudier ce qui va se passer si, par exemple, on enlève certaines cellules ou on les modifie d'une manière ou d'une autre, comment est-ce que ça va affecter le groupe de cellules. Donc on peut imaginer d'utiliser ce système, avec un système microfluidique, pour étudier la cicatrisation cellulaire. Donc on a une couche de cellules, on va injecter un poison de manière localisée grâce à un système microfluidique, donc que je vous montrerai juste après, et ça va tuer une rangée de cellules. Et la question, c'est comment les cellules vont réagir pour guérir le tissu. Est-ce qu'elles vont réagir en cicatrisant par croissance, c'est-à-dire que les cellules qui sont au bord du trou vont essayer de grandir pour refermer le tissu, ou est-ce qu'elles vont le faire par multiplication cellulaire? Donc ça, ce sont des mécanismes classiques qui sont étudiés en biologie. Et donc là, on a un système très simple pour étudier ces phénomènes. Une autre possibilité avec exactement le même système microfluidique, tout ce qu'on a à changer, c'est le réactif qu'on injecte. Si on injecte un signal développemental, par exemple, le groupe de cellules exposé à ce signal va avoir des propriétés différentes. Et éventuellement, avec le temps, ces propriétés vont influer sur les cellules environnantes qui vont, à leur tour, avoir d'autres propriétés. Et donc ça, en fait, ce genre de phénomène qu'on appelle patterning en anglais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on fait un patron. Il y a un patron d'expression. C'est la différenciation cellulaire. C'est à l'origine de beaucoup de mécanismes du développement. Et donc, alors j'ai commencé avec un système relativement simple dans lequel j'ai injecté un fluide vert. C'était le fluide général, on va dire. Et ensuite, j'avais trois entrées avec les fluides bleu, rouge, bleu. Et la sortie est ici. Donc ça, c'était pour la preuve de principe. Le système, c'est un système qui ressemble à ça. Ça implique un système de contrôle de flux, ici, qui est cette boîte. Un système de réservoir avec éventuellement des seringues pour faire des traitements séquentiels. Les puces sont en fait disposées sur la plateforme d'imagerie. L'objectif est juste ici, juste en dessous. Donc vous voyez, la résine, elle est bien transparente. Et ensuite, on a les ordinateurs. Et donc, bon, ça devait être une vidéo, mais en fait, je n'ai pas réussi à l'activer. Là, ce que j'avais donc le flux rouge, un flux bleu, un flux vert, un flux vert et un autre flux bleu. Et donc ça peut être maintenu dans cet état pendant des heures. c'est stable, les flux vont pas changer. Alors après, je suis passé à un système un petit peu plus compliqué. Disons que j'ai rajouté des flux latéraux parce que ça donne plus de stabilité aux flux. Et là, donc ça, c'est plutôt le genre d'expérience que je fais réellement avec des cellules en culture. Donc je mets un marqueur bleu et un colorant rouge dans les trois entrées ici. Et dans l'entrée centrale, je mets aussi un marqueur cellulaire rouge et un système qui induit l'expression de cellules en vert. Alors, si on regarde les flux pendant... Alors ça a été filmé pendant 3 heures. Encore, je suis désolé, le film ne marche pas. Mais en gros, ça ne bouge pas du tout. Pendant 3 heures, si je vous fais passer le film, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de film. Donc c'est très très stable. Et ce qu'on obtient après 2 heures de perfusion, donc vous voyez le marqueur bleu ici, il y a du marqueur bleu aussi, le marqueur rouge est tellement fort ici que le marqueur bleu s'efface, mais en fait, voilà, les cellules qui ont été exposées au marqueur bleu, cellulaire bleu et au colorant rouge, donc le colorant rouge ne colore pas les cellules, il colore juste le flux. Donc les cellules sont seulement bleues, et par contre, le marqueur cellulaire rouge ici est présent, et donc vous voyez... les cellules ont été modifiées avec les couleurs voulues. Et alors le système d'induction que j'ai, donc ça induit spécifiquement l'expression d'un gène et ça devient, les cellules se colorent en vert. Et ça, je l'ai fait seulement dans le canal central. Et donc là, on peut commencer à modifier vraiment le comportement des cellules avec ce type de système. Donc ça, c'est à 24 heures. Donc vous voyez, il y a eu un petit peu de diffusion. Il y a une réponse qui n'est pas complètement homogène des cellules, bien que le flux soit bien homogène. Mais c'est similaire à ce qu'on peut obtenir quand on observe les cellules et les tissus en réalité. Et donc à 48 heures, c'est encore relativement stable et ça ressemble à peu près la même chose. Voilà. Bon, je vais passer rapidement. Il y a des modules pour rendre le système encore plus compliqué, qu'on peut mettre en amont, pour générer des gradients. Donc avec un système de circonvolution de ce type-là, on peut, à partir de simplement deux types de flux ou trois flux, générer des gradients d'un composé qui ont des formes différentes. Donc ça a un très gros impact au niveau dans la biologie du développement, mais bon, je ne vais pas m'éterniser dessus. Et une autre application de ce type de gradient, en fait, vous voyez, donc c'est la même puce que celle qu'on a vue avant, mais elle est mise en amont de chambres cellulaires. Et là, en fait, chaque ligne de chambre cellulaire est soumise à un traitement à doses différentes. Donc on peut observer la réponse des cellules en termes de coloration, ici, on utilise un système de coloration, au traitement. Donc ça peut permettre de déterminer, par exemple, à quelle dose on doit utiliser un médicament pour qu'il ait l'effet souhaité sur une cellule. Et donc tout ça, c'est quoi ? C'est 4 cm carrés. Voilà. Bon, après, on peut descendre encore plus bas, on peut descendre à l'échelle de la cellule elle-même. Et donc dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un colorant pour les mitochondries. Les mitochondries sont des petites structures dans la cellule qui en fait sont génératrices d'énergie. Et il y a un colorant spécifique de ces mitochondries. En fait, ils se sont rendus compte que si on traite une partie de la cellule avec ce colorant vert, il va venir colorer les mitochondries par diffusion. Et ensuite, les mitochondries vont se déplacer dans la cellule au cours du temps. Donc en fait, les mitochondries sont mobiles dans la cellule. Ils l'ont montré aussi avec deux colorants, donc un qui va colorer en rouge, un qui va colorer en vert. Donc vous avez rouge d'un côté, vert de l'autre au début de l'expérience. Et plusieurs heures après, ben, c'est tout mélangé. Donc si on est loin, ça paraît jaune. Voilà. D'autres exemples, on peut carrément regarder l'activité d'une molécule particulière dans la cellule, typiquement une enzyme, et regarder comment... l'activité de ces enzymes se propage au niveau de la cellule, si ça reste localisé ou si ça s'étend à toutes les cellules. Et donc ici, ce qui a été fait, c'est qu'en utilisant un système microfluidique aussi, on a seulement excité, en fait, on a soumis une cellule à un facteur de croissance qui s'appelle EGF, et on voit en aval, après 5 secondes, on commence à voir l'activation d'une protéine kinase qui est en fait un messager intracellulaire qui va dire à la cellule, bah, faut activer l'expression de tel gène, etc. Donc là, on a la réponse moléculaire d'une cellule visualisée en direct, localement, grâce à un système de traitement microfluidique. Ah oui, alors ça... D'accord, bon, je vais passer alors. Alors, il y a un truc très intéressant, en fait, après, c'est les micro-gouttes qui peuvent être utilisées. Alors, bon, je vais tout... Alors, je vais présenter encore cet exemple rapidement. Donc, les micro-gouttes, c'est simple. On a deux flux avec de l'huile, un flux avec un milieu aqueux. Donc, on peut avoir des cellules dedans, par exemple. Et on va arriver à générer, régulant les pressions dans ces trois entrées, des petites gouttes comme ça, qui vont avoir des cellules dedans. Et après, on va être capable de stocker toutes ces petites gouttes qui sont des mini volumes de réaction. Et ensuite, on peut faire du triage de cellules. Par exemple, si, suivant les conditions dans la goutte, les cellules vont s'allumer en vert, par exemple. On a un microscope qui est couplé là-dessus. Et on va pouvoir visualiser ces cellules. Quand elles sortent du système de stockage ici, on va voir passer une petite cellule verte. À ce moment-là, on va déclencher un champ électrique qui va dévier la cellule d'intérêt dans un compartiment différent, et on va pouvoir stocker comme ça des cellules particulières. Donc ça, c'est très important pour les cellules qui sont rares. Il y a des cellules dans le corps qui sont difficiles à étudier simplement parce qu'elles sont rares. Les populations sont très petites. Donc là, c'est très important de pouvoir, à partir d'un bout d'organe, de pouvoir isoler ces cellules rares pour ne pas être contaminées par les cellules qui ont des propriétés très différentes et qui ne sont pas rares. Voilà. Un dernier exemple, et je m'arrêterai là, qui est spectaculaire, c'est la possibilité en fait de faire, d'avoir une plateforme avec un système microfluidique, avec ces micro-gouttes, dans lequel on peut optimiser les conditions de réaction pour réaliser des cristaux protéiques, et en fait de déterminer la structure en trois dimensions des protéines de façon à très haut débit. Ça, ce procédé, la cristallisation des protéines, ça peut prendre des années de travail. Et si on a un système automatisé qui a bien été mis en place, avec bien sûr des bons capteurs, une bonne source de rayons X, etc., et ben, on peut imaginer faire en série et en parallèle la structure de plusieurs protéines en temps record. Voilà. Après, le genre de... Là, maintenant, je suis ouvert aux questions. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut imaginer pour le futur de la microfluidique dans les 10 prochaines années, peut-être. Voilà.
Merci beaucoup. Bon, si vous êtes encore en état de poser quelques questions, je pense que ça a dû quand même susciter quelque intérêt. Pour moi, c'est extraordinaire comme développement dans le futur, avec des outils médicaux essentiellement. Un médecin qui pourrait réagir.
Merci, Jean-Léopold Siwenene, je suis médecin sur Angoulême. Effectivement, juste deux aspects des choses. Tout à l'heure, vous avez parlé de la microcirculation, qui est là. On y est déjà, parce que naît aujourd'hui en médecine une nouvelle pathologie qu'on appelle les syndromes d'hyperviscosité. C'est tout simplement toutes les maladies qui sont dues aux hyperviscosités et qui se focalisent sur la sphère capillaire, vraiment de la microcirculation. Alors on a des maladies du contenant, on a des maladies du contenu, et grâce à vos travaux, qui m'intéressent énormément, on va beaucoup avancer parce qu'il n'y a pas de thérapeutique à l'heure actuelle pour ces pathologies-là. Il faudrait bien qu'on le sache. Et que j'aimerais aussi que les nanophobes comprennent que les nanofibres ne sont absolument pas du tout des manipulateurs des molécules d'ADN. Absolument pas du tout, absolument pas. On est là pour rendre service à l'humanité, d'abord. Et vraiment, merci, parce que ce que vous dites là, ce que vous avez dit les deux, Alexandre, dans ma pratique quotidienne, on y est. Et je fais beaucoup d'expériences de classe 3 et 4 pour des laboratoires américains et suédois. J'ai aujourd'hui des molécules, si vous voulez, de demain, que je teste en grandeur nature. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de dire. Voilà, c'est le témoignage que je peux apporter en disant nous y sommes à pieds joints.
Merci, monsieur.
Est-ce que vous avez la possibilité de suivre le déplacement des microcapsules contenant des médicaments et qui ne vont pas dans les petites capillaires, mais c'est là où exactement il y a les cellules cancéreuses pour libérer, qui ciblent justement ces cellules-là pour libérer là-bas les médicaments? On a parlé hier soir.
Bon, alors ça, c'est des nanotechnologies, effectivement. Mais ce n'est pas vraiment du domaine de la microfluidique, puisque la microfluidique, c'est un système de manipulation plutôt en dehors du corps. Hein. Ça, c'est plus appliqué au diagnostic et tout ça. Mais effectivement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser des systèmes microfluidiques pour modéliser, pour mettre au point les systèmes d'imagerie qui vont être utilisés après en direct sur des personnes. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer reproduire ce qui se passe en gros dans la circulation sanguine humaine avec les différents diamètres des vaisseaux sanguins et puis essayer de faire des tests avec ces espèces de nanomachines ou nanocaméras, etc. Et de voir est-ce qu'ils obstruent par exemple le flux sanguin, est-ce que ça crée des problèmes.
Pour aller dans le sens de ton commentaire et aussi de la question, j'ai vu une publication qui doit dater de 5-6 mois où on commence à reproduire le corps humain sur une puce, en gros, hein, donc avec de la microfluidique et on va tester des différents organes, enfin pseudo-organes, disons, par des systèmes cellulaires représentatifs des tissus. Hein.
Tout à fait.
C'est un des objectifs, ça.
Ouais, la microfabrication et la microfluidique permettent, en fait, à l'heure actuelle, de mettre... d'avoir des systèmes de culture cellulaire dans lesquels on a plusieurs types cellulaires séparés, éventuellement dans les géométries dans lesquelles ils se trouvent dans le corps humain, et donc d'étudier comment est-ce que ça interagit. Par exemple, si j'attaque tel type cellulaire avec telle toxine, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être l'impact sur cet autre type cellulaire qui est voisin? Et donc ça permet de faire des études de toxicologie très importantes. Et effectivement, quand j'entendais parler de l'investissement sur les risques, etc., et le fait que la toxicologie n'est pas très développée en France, en fait, c'est assez vrai. Moi, j'étais dans un labo de toxicologie aux États-Unis avant. Donc j'étudiais la toxicité au manganèse qui est impliquée dans la maladie de Parkinson. Et là-bas, on arrive à avoir des financements pour faire de la toxicologie. En France... c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en toxicologie, on ne publie pas dans Nature, on ne publie pas dans Science, on ne publie pas dans Cell. Et je suis désolé de le dire, mais l'ANR a tendance à favoriser les équipes qui vont publier dans Cell, Nature et Science. Donc je ne suis pas sûr qu'ils vont mettre... C'est dommage qu'ils ne soient plus là. mais je ne suis pas sûr que l'avenir de la toxicologie en France soit... très important, parce qu'après les boîtes pharmaceutiques elles réalisent des études toxicologiques, mais parfois est-ce qu'elles ont intérêt à les pousser au maximum?
Il y a un laboratoire de toxicologie à Grenoble, à Bordeaux, qui est très connu.
Oui,
dans les universités, il y a aussi l'AFSA.
Mais il y a tellement de choses à rechercher en toxicologie.
Non, parce qu'on a eu des toxicologues ici qui sont venus faire des conférences lors de nos journées d'études, donc j'ai plus le nom, mais enfin bon, il m'apparaissait que la toxicologie existait, mais là apparemment il y a une lacune.
Elle existe, mais elle est minime par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis, par exemple. Ah bien sûr, c'est des toxicologues. Non, il y a des toxicologues, c'est juste que la toxicologie n'est pas assez valorisée. Alors qu'à l'évidence, avec les débats de société qu'on a à l'heure actuelle, et qui sont sains, c'est important d'investir là-dedans et ne pas regarder, de ne pas faire des catégories de recherche basées sur le facteur d'impact. Parce que on en arrive à ce genre de situation.
Oui. Oui, moi je vais parler de la toxicologie sur les très très faibles doses en milieu environnemental. Donc c'est pas le Vidal que j'aurai comme référence. C'est vrai qu'en France et en Europe, c'est plutôt l'USEPA qui fait office de référence. Néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, l'Agence européenne de l'environnement est en train, via l'INIRIS notamment en France, comme laboratoire, de revisiter un certain nombre de méthodes pour établir des valeurs toxicologiques de référence. Je crois que ça, c'est important, c'est récent. On a beaucoup de retard. A priori, il faut quand même garder un peu raison, si je puis dire, parce que lorsqu'on regarde un peu les chiffres, on voit effectivement le nombre de molécules qui sont étudiées par l'USCPI. Mais néanmoins, quand on fait une lecture critique de la méthode d'évaluation, la méthode d'élaboration pardon, des VTR, il y a beaucoup de choses à dire et des choses qui peuvent être contestées et contestables. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre quantité et qualité et que nos programmes qui ont l'air de vouloir démarrer, je souhaite qu'il y ait beaucoup d'argent qui soit mis dedans parce qu'on en a beaucoup besoin, puissent justement offrir à la fois la quantité parce que il y a beaucoup de molécules qui sortent sur le marché, mais également qu'il soit des études de qualité qui ne soient pas trop contestables.
On va essayer de ne pas s'intoxiquer en déjeunant.
Voilà, déjeuner. Et on se retrouve à 13h45.
Oui.
Avec un programme encore chargé pour la politique. Et on va parler de
toxicologie. Oui, à 13h45. Merci à tous.